Radio Kapi.
Oh Kapi, bienvenue.
Bonsoir à tous. Drame sur la rivière Kwa dans la province du Maïndombé. Plus de 80 personnes disparues et une centaine de rescapés. Bilan du naufrage intervenu sur ces eaux. Cause de l'accident, une panne de moteur du bateau dénommé la Sainteté, explique le commissaire fluvial de Mouchi que vous allez entendre dans ce journal. La population de Kindu salue la mise en place du gouvernement et d'autres souhaitent voir ce gouvernement investi travailler beaucoup plus pour les sociales des populations congolaises. Elle s'est exprimée au lendemain de l'investiture du gouvernement souminois. Nous serons sur place avec Florence Kizalunga. Une commission chargée d'investiguer sur la manière dont la province du Sud-Kivu a été gouvernée de 2019 à 2024 a été instituée. Dans ce journal, son fonctionnement et sa mission avec José Népangui, son président qui est l'invité de ce journal. Je le disais tantôt, plus de 80 personnes portées disparues et une centaine de rescapés. C'est le bilan lourd d'un naufrage survenu dans la nuit de lundi à mardi sur la rivière Kwa, dans le territoire de Mouchi. Le commissaire fluvial de Mouchi, Ren Maker, qui s'est rendu sur place pour s'enquérir de la situation, indique qu'il s'agit de la baleinière, la Sainteté, qui se rendait à Kinshasa. Elle s'est cassée après une panne de moteur. Cette embarcation en bois transportait plusieurs personnes, dont les habitants de la ville de Bandundu, de la cité Mouchi et d'autres contrées. Le point avec Irène Mboma Luzolo.
Les sources concordantes parlent d'une baleinière qui a quitté la cité de Mouchi dans la soirée de lundi à destination de Kinshasa, transportant à son bord plus de 270 passagers et des marchandises. Le naufrage s'est produit vers 23h, non loin du village Lediba, à près de 70 km de la cité de Mouchi, chef-lieu du territoire portant le même nom de la province du Maïndombé, indiquent les mêmes sources. Le commissaire fluvial de Mouchi, qui fait partie de l'équipe déployée sur les lieux du drame par le comité local de sécurité, rapporte qu'au total 185 personnes sont sorties vivantes. Parmi les causes principales de cet accident, René Maker note entre autres la navigation nocturne.
C'était la baleinière au nom de la Sainteté. À bord, ils étaient au nombre de 271. Alors, les disparus sont en général au nombre de 86. Ceux qui sont retrouvés sont au nombre de 185. Ils naviguaient pendant la nuit. Alors, ils ont commis une panne moteur. Suite à cette panne, la baleinière a été cognée le bordure. Alors, le tenge du carré de la baleinière était cassé.
Toujours selon René Maker, l'embarcation chavirée se trouve complètement dans l'eau pour le moment. Irène Mboma, Bandundouville, Radio Okapi.
Sachez aussi qu'en Ituri, plus d'un millier de déplacés du site de Niamouassasi, situé à une soixantaine de kilomètres de Bounia, passent la nuit dans des conditions très difficiles. Leurs abris ont été détruits par un vent violent qui a soufflé le dimanche dernier dans cette entité lacustre, indique la société civile locale. Ces personnes qui ont également perdu leurs biens ont fui depuis environ 5 ans les violences de groupes armés dans le territoire de Djougou. Le point avec Jean-Claude Lokidile.
Il est 16h lorsqu'un vent violent souffle sur ce site situé au bord du lac Albert. C'est la débandade, rapporte le président de la société civile des Baïma Banyuagi. Ustensiles de cuisine, matelas et autres objets domestiques, tout est emporté par la tempête, précise Florimo Banga. Sans abri, femmes, hommes, enfants et vieux, estimés à plus de 1000 personnes, sont obligés de partager un même hangar de fortune construit plutôt pour accueillir les nouveaux déplacés qui arrivent au site. Nombreux passent la nuit à même le sol. Les adultes sont parfois obligés de passer la nuit à la belle étoile pour céder de la place aux plus vulnérables, dont des femmes enceintes, des enfants et des personnes de troisième âge. Toujours d'après la société civile locale, les femmes enceintes ont de la peine à poursuivre leur consultation prénatale après avoir perdu tous leurs documents de ces peines. Cette catastrophe naturelle vient exacerber les conditions de vie de ces déplacés qui reçoivent de moins en moins de l'assistance humanitaire. Ils viennent de café, mbogi, soba, chou et Loulou, où la sécurité n'est pas encore rétablie, et plaident pour une assistance humanitaire d'urgence en vue de soulager leurs souffrances. Bounia, Jean-Claude Loki, Dile, Radio Kapi.
Le journal, la population de Kindu salue la mise en place du gouvernement et d'autres souhaitent voir ce gouvernement investi travailler beaucoup plus pour les sociales des populations congolaises. Elle s'est exprimée au lendemain de l'investiture du gouvernement sous-minois. Écoutons leurs avis recueillis par Florence Kizalunga.
Ce que j'attends, c'est de voir les programmes tels qu'il a été présenté à l'Assemblée nationale être scrupuleusement respecté. Ça me réjouit d'attendre que la Première ministre va s'engager avec l'ensemble de son gouvernement dans la création de l'emploi au profit des jeunes que nous sommes. Nous sommes nombreux et qui avons déjà fini nos études, qui restons au chômage.
Aujourd'hui, le gouvernement, il est déjà là. Je crois que l'important est d'aller trop vite. Mais ce que nous craignons en République démocratique du Congo, c'est de voir un gouvernement qui arrive, qui met la tabula rasa au gouvernement qui venait de lui succéder. Donc ça, c'est une politique congolaise qu'il faut bannir. Donc moi, je crois qu'il faut capitaliser les acquis de Samalo Kondé et commencer par là et aller de l'avant. Ça sera quelque chose de très important que de venir commencer à zéro, abandonner tous les projets commencés par Samalo Kondé et chercher à initier d'autres projets peut-être similaires alors qu'il y avait déjà des projets qui étaient déjà entrepris.
Ce dont nous avons besoin, c'est la matérialisation de ce projet. Bien qu'étant une femme, nous entendons beaucoup d'elle.
Dans la République démocratique du Congo, c'est toujours la théorie qui prime la pratique. Donc nous demandons la mise en pratique.
Que faut-il attendre du gouvernement sous-minois après son investiture hier par l'Assemblée nationale? L'ASBEL Congo Action pour une diplomatie agissante, CADA, pense que la sécurité et le social des Congolais figurent parmi les priorités de ce gouvernement. Dans une déclaration ce mercredi, dont une copie est parvenue à Radio Capi, le coordonnateur de cette structure pense que la réussite du gouvernement sous-minois passe, selon lui, par l'impulsion que doit donner le président de la République. Cela, précise-t-il, dans la lutte contre l'impunité et la réduction du train de vie des institutions. On écoute Eric Kamba au micro d'Alain Irung.
CADA pense qu'on ne peut pas présager de l'échec du gouvernement avant que celui-ci ait commencé à travailler. C'est ainsi donc que CADA se propose de suggérer une intelligence qui peut faire la réussite du gouvernement, car sans cela, rien ne va marcher. CADA propose au président de la République de mettre fin à l'impunité de ceux qui s'occupent de la bonne gouvernance, car celle-ci doit être basée sur la transparence. Le président doit sanctionner et puis diminuer les trains de vie des institutions et de ceux qui animent nos institutions. Si jamais le président de la République fait ces deux choses, c'est-à-dire s'il arrête d'être complaisant, s'il fait sanctionner les coupables, la sanction doit être partout, y compris dans l'armée. Au besoin, le président doit être à même de faire arrêter ses propres frères, ses amis et consorts. S'il peut aussi choisir de bonnes personnes dans son cabinet, on pense que c'est un pas dans la bonne direction.
Investiture toujours du gouvernement sous-minois, les députés nationaux ont adopté le programme du gouvernement après 8 heures de débat général et la réplique de la première ministre Judith Suminwa-Tuluka. Après la réplique de la première ministre, 397 députés sur 405 présents ont voté pour l'investiture du gouvernement et 8 autres se sont abstenus. Même si tous ont été favorables à l'investiture de ce gouvernement, les députés se sont montrés rigoureux, sceptiques et mécontents tant à la composition du gouvernement qu'à la matérialisation de ce programme d'action du gouvernement. Michel Kifindangoy.
Prenant la parole en premier, le député Paul Chilumbu de l'UDPS exige que la première ministre veille à ne pas construire des ouvrages à usage unique, comme c'est le cas actuellement. Christian Mwando d'Ensemble pour la République s'oppose même à la composition de ce gouvernement.
Ce gouvernement est inutilement éléphantesque, battant en brèche toutes les promesses de réduction du train de vie de l'État. Avec ses 50 membres nommés de manière cavalière, comme dans un partage inégal de butin.
Cathy Sakombi du MLC soutient les actions prévues, dont la mise en œuvre devrait prévenir toute discrimination.
Il n'est pas bon de procéder, par exemple, à la démolition des maisons des pauvres habitants en laissant les riches situés dans les mêmes zones. Cela entraîne la rupture d'égalité, l'injustice et la discrimination.
Claude Missaret de l'UNC insiste sur la nécessité de l'autosuffisance alimentaire.
C'est une honte pour un grand pays comme la RDC de dépendre de petits pays comme le Rwanda sur le plan alimentaire. Qui peut comprendre que la RDC, avec ses forêts, n'est pas à mesure de produire même les cure-dents?
Tous les autres députés plaident pour que la pacification du pays, la construction des routes et la relance de l'agriculture soient les priorités de ce gouvernement.
D'autre part, le programme d'action présenté par la Première ministre divise la classe politique congolaise. Si le député national Pasisa Pamba, membre de l'Union sacrée, reste optimiste quant à la matérialisation de ce programme et à la réalisation du budget envisagé, Prince Epengé, l'un des porte-parole de la plateforme de l'opposition, la Mouka, estime que le contexte dans lequel ce gouvernement a été composé et le système politique mis en place par Félix Tshisekedi constituent déjà un échec pour cette équipe. Le peuple congolais ne peut rien attendre de bon, déclare-t-il. Les réactions des uns des autres avec vous, grâce à
Pour les députés Pasisa Pamba, ce programme fondé sur 6 piliers est ambitieux et rencontre les attentes du peuple. Toutefois, il insiste sur la lutte contre la corruption.
Lorsqu'on dit qu'on va créer d'emplois, lorsqu'on dit qu'on va faire face aux défis sécuritaires, il faut mobiliser les recettes. C'est possible. Avec la volonté exprimée par le président de la République, on est très vite passé d'un budget de 4 milliards jusqu'à 11 milliards. Et aujourd'hui, on a budgétisé 16 milliards avec le projet de finances 2023, tout comme 2024.
Pessimiste, Prince Epengé qualifie ce programme de plagiat. Selon lui, c'est du déjà entendu. Il pense que rien ne va changer avec ce régime qui, toujours d'après lui, est caractérisé par les détournements à outrance des deniers publics.
C'est de la poudre de perlimpinpin. Madame n'a pas les moyens de sa politique. Madame risque de passer tout son temps à arbitrer les conflits et les rivalités. Les hommes n'ont pas changé. Les choses ne peuvent pas changer. Ne faites pas les choses de la même manière et dans les mêmes conditions et ça entraîne un résultat différent.
De son côté, le professeur Jeff Mudimbi des sciences politiques à l'université de Lubumbashi indique que le programme du gouvernement souminois est porteur d'espoir. Cependant, il plaide pour qu'un bon toilettage s'efface dans le système politique congolais.
L'actualité, c'est aussi l'Assemblée provinciale du Sud-Kivu qui vient d'instituer une commission chargée d'investiguer sur la manière dont la province a été gouvernée en bien ou en mal de 2019 à 2024. La commission a pour mission de réunir les preuves matérielles ou des témoignages sur la gouvernance de la province sous le règne du gouverneur Théo Ngwabidje Kassi et son adjoint Fiston Malago Kachekere. Jean Kassami décrit cette commission.
La commission porte le nom de son président, le député provincial Népangi José. La plénière charge à la commission d'enquêter objectivement sur la gestion financière et administrative de l'exécutif provincial sortant. Toutes les forces politiques représentées au sein de l'Assemblée provinciale font partie de la commission. Les députés membres ont 15 jours pour déposer les résultats de leur travail. Un communiqué diffusé à la radio invite toute personne disposant des éléments de preuve ou de témoignages sur la bonne ou mauvaise gestion financière et administrative de les faire parvenir au bureau de la commission sous pli fermé, du 10 jusqu'au 25 juin 2024. Ceux qui ne seront pas en mesure d'atteindre Bukavu dans les délais impartis sont priés de faire parvenir leurs preuves et d'autres éléments au moyen de téléphone suivant le mode WhatsApp en format PDF au numéro +243 973 442 944. Jean Kassami, Bukavu, Radio Okapi.
Au Nord Kivu, l'ONG Badilika, en français Changement, plaide pour la non-utilisation des enfants dans les forces et groupes armés. Cette organisation de défense des droits humains lance cet appel en cette journée de 12 juin 2024, date de la commémoration de la Journée mondiale contre le travail des enfants. Son coordonnateur déplore le fait que ce phénomène d'enfants associés aux groupes armés exacerbe la situation des enfants qui sont déjà utilisés pour d'autres travaux dévolus aux adultes. Il demande une implication du gouvernement. Kamba Lenguka Patrick est au micro de Bernardin Nyangi.
Les enfants, au-delà d'être victimes des agressions, des crimes contre l'humanité, mais ces enfants aussi traversent des conditions de travail très alarmantes. Ces enfants sont recrutés dans plusieurs maisons comme des travailleurs domestiques, des enfants qui sont recrutés dans les groupes armés. Il fallait aussi déplorer les conditions dans lesquelles les enfants travaillent dans les carrières minières, surtout à Mansissi, à Lubero, où les enfants sont considérés aussi comme une autre main-d'œuvre avec toutes les conséquences sur leur santé, leur éducation. Et aussi, pendant cette période de la guerre, les enfants abandonnés, les enfants orphelins, pour survivre, ces enfants, surtout les filles, se font violer. C'est pourquoi nous profitons cette journée à mobiliser toute la population, toute la communauté à lutter contre le travail des enfants, à promouvoir vraiment leur développement. Nous invitons surtout au gouvernement d'améliorer la situation des enfants, surtout en améliorant l'éducation.
Voilà, remise des prix de la 6e édition du concours de dictée dénommé Écriture sans faute. Elle a eu lieu ce mardi à Kinshasa. Cette épreuve est organisée par la MONUSCO dans le cadre de son programme visant la promotion du multilinguisme. C'est en partenariat avec l'Association congolaise des femmes de presse, ACOFEP. Plusieurs écoles y ont pris part. D'autres détails avec Miradi Mfwengi.
Cette 6e édition a eu comme thème « Discours de haine et de désinformation ». Les 10 lauréats sont issus notamment du lycée technique de Matongé, du complexe scolaire Tyrannus de Mongafula et du groupe scolaire Les Petits Anges des Kingabois. Ils ont reçu des chèques, des bourses d'études, des manuels scolaires et des trophées. Mireille Zemingia, première à ce concours, remercie la MONUSCO et encourage ses autres camarades.
Je remercie la MONUSCO pour les autres. Ils ne puissent pas se décourager, la prochaine fois ils vont mieux faire.
Le troisième, console d'une Gangou donne ses impressions et adresse un message à la MONUSCO.
Je suis heureux, j'ai gagné. J'ai eu l'échec de $250, un sac et un trophée. Je dis à la MONUSCO de continuer ce qu'ils ont tenté de faire.
Sarah Yenga, un des parents, adresse cette demande.
Pour que les enfants maîtrisent cette langue, ils doivent l'apprendre. Ils doivent avoir des outils pour apprendre cette langue. Et déjà, avec cette gratuité de l'enseignement, c'est vrai, nous observons beaucoup de lacunes, mais qui peuvent être palliées par des appuis financiers, des bibliothèques, des salles de lecture, des jeux concours, quiz par exemple. Pourquoi pas une question pour un champion dans les écoles. Le fait au niveau local, régional et pourquoi pas au niveau national.
Pour les organisateurs, cette remise des prix est une manière de reconnaître les efforts des enfants et également de les pousser vers l'excellence.
L'invité.
L'Assemblée provinciale du Sud-Kivu institue une commission chargée d'investiguer sur la manière dont la province a été gouvernée de 2019 à 2024. La commission a pour mission de réunir les preuves matérielles ou des témoignages sur la gouvernance de la province sous le règne du gouverneur Théo Ngwabidje Kassi et son adjoint Fiston Malago Kachekere. Notre invité, c'est bien le président de la commission, le député provincial Maître José Nepangui, interviewé par Jean Kassami.
Bonjour honorable.
Nous sommes députés provinciaux élus de la circonscription électorale de Mwenga.
Un communiqué est en train d'être diffusé sur les médias et dans les réseaux sociaux, invitant toute personne qui détiendrait de témoignages ou des éléments sur la bonne ou la mauvaise gouvernance de l'équipe sortante de bien vouloir se présenter avec ces données à l'Assemblée provinciale. Quel bureau on devrait contacter?
Les lieux où on doit déposer ces éléments de preuve, c'est ici à l'Assemblée provinciale, au bureau de la commission d'enquête du gouvernement provincial du Sud-Kivu de 2019 à 2024. Donc les preuves peuvent être déposées ici, sous pli fermé, et nous allons les dépouiller et voir tout ce qui a été mis dedans.
Par qui la commission a-t-elle été instituée et quel est son objectif?
La commission a été instituée par la plénière. Comme dans la mission parlementaire, les députés ont deux missions, de légiférer et de contrôler. Nous sommes dans la phase où les députés ont estimé qu'il faut contrôler l'ancien gouvernement de 2019 à 2024. Et il a plu à mes pairs de m'élire comme président de cette commission. La commission est constituée de toutes les couches, tous les députés, selon toutes les forces politiques. De l'UNC, il y a de l'UDPS, il y a de l'AFDC, il y a des NOABC50. Il y a vraiment toutes les composantes politiques que forme l'Assemblée provinciale.
Quelle est la mission principale dévolue à la commission que vous chapeautez?
Pendant ce moment ici, je ne saurais pas être trop large, parce que pendant le moment de l'enquête, je suis soumis, tous les membres de la commission, au devoir de réserve. Mais la mission, comme son intitulé, c'est une mission de contrôle. Et que les gens ne considèrent pas ça comme des chasses à l'homme où on fouine dans le passé. Parce que l'objectif premier des députés, c'est de contrôler l'exécutif, les institutions provinciales. Alors nous sommes en train d'étudier, ça aide aussi l'équipe qui va venir de ne pas se comporter comme si c'est déjà un intérêt conquis, ils peuvent faire tout ce qui leur semble juste et bon. Donc ils doivent savoir que le contrôle parlementaire se fait a priori et a posteriori, avant et après. On ne peut contrôler ce qui est déjà fait, on ne peut pas contrôler ce qui viendra. Toute commission ne sera pas commission d'épargne, il y aura d'autres. Par le passé, il y a d'autres commissions qui ont enquêté les gouvernements, qui ont précédé les gouvernements passés. C'est dans cet angle-là que nous nous retrouvons.
C'est donc dans le sens de la bonne gouvernance.
Oui, c'est la bonne gouvernance. Que les gens n'interprètent pas ça comme s'il y a une personne que nous ciblons. Non, nous ne ciblons personne. C'est le système que nous sommes en train d'examiner. Du commun des mortels, aujourd'hui, on jette de l'opprobre aux dirigeants anciens. C'est une occasion que tout le monde qui juge à tort ou à raison d'amener de preuves. Il ne faut pas qu'on soit seulement le juge de la rue qui condamne par défaut. On ne doit pas jeter des pierres sur les anciens dirigeants. Motif, oh non, ils ont volé. Alors, quiconque disposerait de preuves, c'est le moment. Et peut-être ça sera une façon aussi de blanchir ceux qui étaient là. Parce qu'à un moment donné, on a compris que un grand nombre et une grande opinion n'ont pas vraiment une très bonne image par rapport à tous ceux qui étaient là. Mais c'est une occasion. Donc que personne ne puisse penser que nous sommes en train de faire des chasses à l'homme. C'est une façon de faire participer la population à l'enquête. Parce que nous, nous sommes les représentants du peuple et que le peuple aussi participe à cette action. Parce que nous ne sommes pas Dieu le Père pour deviner à quel point et surtout que l'État imparti est si court. 15 jours, s'il faut enquêter ce qui a été fait pendant 5 ans, vous imaginez, on ne saura pas peut-être arriver au coin, et peut-être vous-même ici dans la poche, vous pouvez avoir une preuve de bonne gouvernance. Veuillez me le faire. Si vous avez une preuve de mauvaise gouvernance, veuillez aussi me le faire. C'est dans l'amour et par souci patriotique et de la bonne gouvernance.
Honorable Nempangui, nous vous disons merci.
C'est moi qui vous remercie.
Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie.